pour investir, le coffre-fort.
Et comme régulièrement, justement, on explore un petit peu les dynamiques qui animent le marché de l'art. Victoria D'Amido d'Agut, bonjour.
Bonjour Antoine.
Merci d'être avec nous. On va explorer différentes problématiques du marché de l'art. Premièrement, il y a quelque chose qui est toujours intéressant sur ce marché de l'art, et spécifiquement quand on est collectionneur, quand on essaie de s'intéresser à plusieurs courants artistiques, c'est d'essayer de voir un petit peu comment se passe l'émulation entre les maisons d'enchères d'un côté, mm-hmm. mais aussi les grandes institutions, les ministères qui promeuvent un certain nombre de dynamiques artistiques. Et dans cette émulation, il y a des mécanismes qui aident les œuvres à devenir beaucoup plus disponibles sur le marché de l'art. Et je crois que vous avez quelques exemples à nous proposer qui sont intéressants là-dessus.
Oui, tout à fait. On a l'exemple avec, par exemple, les œuvres caravagesques, où l'on sent
Pas de dessin.
Voilà. Exactement, où on sent un vrai intérêt de la part des amateurs d'art. Avec des expositions qui ont eu de grands succès, par exemple au Petit Palais, il y a eu Ribera, au musée Jacques Marandré, voilà, il y a eu Georges de la Tour, et ça se vérifie aussi dans l'engouement de nos collectionneurs pour les œuvres que nous présentons. Mmh. Et la semaine dernière, on avait un très joli tableau de Mathias Thom, qui est donc un caravagesque du XVIIe siècle, qui présentait toutes les caractéristiques d'une œuvre caravagesque, à savoir ce clair-obscur très intense,
ce cadre. Le jeu de lumière.
C'est exactement ça, les cadrages resserrés, un personnage qui, effectivement, occupe tout l'espace pictural. Ouais. Et on l'avait estimé 10 à 15 000 euros, et ce tableau s'est envolé pour 54 000 euros. Donc, il y a une vraie. Il y a un vrai intérêt de la part de nos clients pour ce type d'œuvre.
Ah oui, c'est assez incroyable. Pourquoi est-ce que le nom de Caravage, on connaît, mais comment se fait-il que ce mouvement qui est parti de lui, justement des spécificités qu'il a sur ses tableaux et un peu ses petites obsessions en tant qu'artiste, comment ça se fait que c'est devenu si au cœur de la création de valeur dans le marché de l'art?
Alors peut-être pour l'engouement autour de la personne de Caravage lui-même, à savoir qu'il était c'était un être assez curieux, qui a eu une vie très rocambolesque, qui est mort dans des circonstances tout à fait mystérieuses. Mmh. Et en même temps, il a eu cette aura, cette influence sur des artistes dans l'Europe entière, avec des courants qui se sont créés même en France, qui se sont créés également dans les pays du Nord, en Flandre, aux Pays-Bas. Donc voilà, c'est ce qui explique aussi cette émulation actuelle autour de cette personne et de ses émules.
Alors émulation, je le disais en début d'interview, entre les institutions en elles-mêmes et aussi les acteurs du marché de l'art, il y a aussi une forme d'émulation, c'est-à-dire que l'histoire de l'art vient piocher et vient s'enrichir de ce qui se passe dans les maisons de vente et justement sur le marché, sur l'échange d'œuvres, etc. On redécouvre des choses, on redécouvre des mouvements, et ça, c'est une problématique qui vous intéresse aussi.
Bien sûr, c'est une problématique qui nous intéresse parce qu'on a toujours à cœur, quand on nous confie une œuvre, d'arriver à la valoriser, d'arriver à la replacer dans un contexte de production, dans un contexte historique. Et parfois, ça peut susciter de l'intérêt de la part des institutions, des musées, que ce soit français ou à l'étranger. Et quelque part, nous les aidons à enrichir leur collection, et c'est ce qui est très intéressant.
Oui, effectivement. Et puis, il y a aussi des découvertes qui sont faites par les particuliers eux-mêmes. Alors, c'est rare. Mais alors, le jour où ça arrive, je suppose que des histoires comme ça, vous en avez à l'appel chez Agut.
Oui, c'est assez formidable. Récemment, on nous avait confié un pastel qui avait été un petit peu remisé dans un garage, dans un grenier, qui nous a été confié comme anonyme. Et finalement, avec notre travail d'expertise, nous avons réussi à le restituer à un artiste qui s'appelle Charles-Antoine Coipel, ce qui nous a permis de lui donner une vraie valeur, à savoir 15-20 000 euros, avec une adjudication à 24 000 euros. Et puis aussi, par exemple, il y a quelques mois, j'étais venue parler d'un dessin qui est juste derrière vous, de Jean-Baptiste Oudry, qui était arrivé comme plus ou moins une gravure, donc avec une valeur assez faible. Et finalement, c'était bien un dessin, il était bien préparatoire à un tableau au Musée des Augustins à Toulouse.
On avait parlé des dessins préparatoires, c'est fascinant.
Exactement,
aussi.
Et finalement, on l'avait estimé donc 60 à 80 000 euros, et il s'est vendu près de 212 000 euros. Donc il y a un vrai intérêt à venir nous voir pour notre travail d'expertise, notre travail de recherche et de valorisation des œuvres.
L'autre, je suis quand même très impressionné par les montants, parce que là, ça passe de, oui, effectivement, belle prise de valeur. Alors, là, ça s'envole. On parlait du secteur des semi-conducteurs en début d'émission. Là aussi, c'est un marché où la valeur se crée par cycle. Et c'est assez étonnant. Dernière chose, l'importance de la signature. Évidemment, ça reste un aspect prépondérant dans les dynamiques dont on vient de parler.
Alors oui, la signature compte, mais à savoir que lorsque l'on parle de signature, dans notre métier, on n'entend pas forcément le fait que le peintre ait inscrit son nom. Mmh. Une signature peut aussi être confirmée par les caractéristiques techniques d'une œuvre. Et c'est effectivement très important, puisque certains artistes ont une cote beaucoup plus importante que d'autres. Et c'est ce qui s'est passé pour Jean-Baptiste Oudry, c'est ce qui s'est passé pour Charles-Antoine Coypel, où parce qu'il y a leur nom derrière, qui n'est pas forcément inscrit sur l'œuvre, on arrive à des résultats assez fabuleux.
Et puis là aussi, redécouvrir des noms, ou même les découvrir tout court, je ne sais pas, Charles-Antoine Coypel, moi je dois vous confier que je ne connaissais pas,
oui.
Mais c'est véritablement un mouvement dans le mouvement, quoi.
Oui.
Et c'est ça qui est intéressant.
Oui, tout à fait, et nous avons en fait des amateurs, des collectionneurs, des amateurs éclairés, on va dire, et oui. Des collectionneurs qui connaissent ces artistes, qui savent exactement ce qu'ils ont pu faire dans leur carrière, et qui sont vraiment intéressés par le fait d'acquérir des œuvres comme ça, et finalement d'acquérir un petit bout d'histoire de l'art. Et voilà, c'est comme ça aussi que la dynamique peut fonctionner.
L'histoire de l'art qui s'enrichit de ce qui se passe autour du marché de l'art. Merci infiniment, Victoria D'Amido-Dagut, de nous avoir expliqué tout ça. C'était encore une fois passionnant.